Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, Omicron, le dur et l'espoir. Le dur, c'est le record des cas annoncé hier, la grève des enseignants demain et les pénuries toujours dans les entreprises. Mais le pic de l'épidémie ne semble pas loin. Et l'espoir, c'est qu'entre vaccins, contamination et formes moins sévères, on s'approche d'un virus avec lequel on pourrait vivre. C'est l'objectif, dit à l'instant le porte-parole du gouvernement. C'est la thèse en Israël et en Europe de l'Agence du médicament. Comment les enfants traversent-ils cette période? D'autres questions, toutes vos questions à une pédiatre. Dès maintenant, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Le docteur Brigitte Viret sera avec nous à 13h30. Dans l'actualité également, un nouveau retard dans le chantier de la centrale de Flamanville. Mauvais signe, alors qu'Emmanuel Macron et plusieurs candidats à la présidentielle veulent relancer le nucléaire. Une garde à vue dans l'affaire de la tuerie de Chevaline, 9 ans après ce quadruple meurtre. Va-t-on vers une guerre en Ukraine? Discussion Russie-OTAN aujourd'hui à Bruxelles. Et Djokovic, parti participera ou pas à l'Open d'Australie. Son image se dégrade, les sponsors s'inquiètent. Vos rendez-vous dans le 13-14, les sorties cinéma du mercredi, comme chaque semaine avec Corinne Pellissier. Le vif de l'histoire, il y a 200 ans, naissance de la Grèce moderne. Le feuilleton, une semaine dans la vie de Zaya Ziwani, une des rares femmes chef d'orchestre. C'est à 20 ans, en ne voyant que des hommes à la baguette, qu'elle a créé son propre ensemble.
Si on ne t'ouvre pas la porte, tu passes par la fenêtre, puis sinon tu passes par le toit, puis par la cheminée, puis sinon bah, tu défonces la porte.
Voilà, Zaya Ziwani avec Amélie Perrier, ce sera à 13h50 et dans C'est une chanson, avec l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré, nous écouterons du Brassens, les gens qui sont nés quelque part. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est un des sujets importants de la campagne électorale. Quel choix énergétique pour les années et décennies à venir? Emmanuel Macron veut relancer le nucléaire. Droite, extrême droite et communistes y sont également favorables. L'actuel parc vieillit ou a besoin de maintenance après les mois de Covid. 4 réacteurs sont à l'arrêt cet hiver. Et voilà que du côté des centrales nouvelle génération, le chantier de Flamanville dans la Manche prend une nouvelle fois du retard, entre 3 et 6 mois et 300 millions d'euros de plus sur la facture. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Le combustible sera chargé au mieux au second trimestre 2023.
Oui, un nouveau retard qui s'explique par les mesures sanitaires très strictes sur le chantier de Flamanville. EDF doit aussi terminer les reprises des soudures qui ont un défaut avant de pouvoir charger le combustible dans le réacteur, préalable à la mise en service de l'EPR. Enfin, il va falloir tirer les conséquences de l'incident survenu sur l'EPR chinois Taishan 1, mis à l'arrêt en juillet. En cause, un phénomène d'usure mécanique de certains composants d'assemblage. Selon EDF, cet aléa ne remet pas en cause la conception de l'EPR. L'électricien promet d'injecter les premiers mégawattheures sur le réseau électrique avant la fin 2023.
En tout cas, c'est une nouvelle importante à l'heure où le pouvoir et plusieurs candidats à la présidentielle misent sur ces centrales nouvelle génération.
Oui, ça tombe mal, c'est vrai, d'autant plus que les dérapages financiers et de calendrier s'accumulent depuis le début et que c'est sur une version standardisée de ces EPR, ces réacteurs à eau pressurisée de très haute puissance, que le gouvernement compte. Emmanuel Macron l'a annoncé à l'automne, il veut relancer le programme nucléaire tout en développant les énergies renouvelables. Alors, quand et combien de réacteurs? Rien n'est acté. Dans ces scénarios, EDF évoque 6 EPR, les deux premiers sans doute à Penly, en Normandie. On attend l'annonce officielle, mais nul doute que ce retard, un de plus, va peser dans le débat de la présidentielle. L'association anti-nucléaire Greenpeace dénonce déjà un énième dérapage qui disqualifie les annonces de nouveaux réacteurs.
Hier, le gouvernement allemand a présenté son plan énergétique, objectif 80% d'énergie renouvelable en 2030. Il prévoit de dédier 2% du territoire allemand à l'installation d'éoliennes. Il reste 3 centrales nucléaires en Allemagne qui doivent fermer à la fin de cette année. Oui, la période est difficile. 370 000 nouveaux cas de Covid annoncés hier en France, record absolu. La moitié des Européens seront touchés par Omicron d'ici à 2 mois, selon l'OMS. Et pour nos confrères de l'agence France Presse, il y a 2,5 millions de contaminations quotidiennes au Covid dans le monde en ce moment. Alors y a-t-il tout de même de la lumière? Eh bien oui, en 3 endroits au moins. La Grande-Bretagne d'abord, Londres en particulier. Le pic semble bel et bien passé depuis la semaine dernière dans la capitale britannique. Petit 2, le Portugal, particulièrement bien vacciné. Les hôpitaux sont loin d'être saturés par la vague Omicron. Et puis Israël, s'appuyant sur les études de ces dernières semaines, selon lesquelles Omicron est plus contagieux mais moins dangereux, constatant que la capacité de test est de toute façon saturée vu la vitesse de circulation du virus, Israël allège les mesures, laisse davantage circuler ce virus. Est-ce le pari d'une immunité collective entre les vaccinés et les malades légers, un bouclier contre le virus ? Pas tout à fait. Le professeur Cyril Cohen, grand spécialiste en Israël, avec notre correspondant Frédéric Mettezo.
L'Omicron pourrait, je le dis au conditionnel, aider à arriver à une situation qui est plus endémique, pas nécessairement une immunité collective comme celle qu'on connaît avec la rougeole, avec la varicelle, etc., mais une situation endémique comme ce qu'on connaît avec la grippe. Grippe où on a des vagues, certaines sont, plus légères, certaines sont plus compliquées, mais une fois de plus, la grippe revient chaque année, mais vu grâce au fait que ça fait des dizaines d'années et des centaines d'années que nous sommes exposés à la grippe, le virus circule moins bien et fait moins de dégâts que ce que l'on voit jusqu'à présent avec la Covid-19. Je ne peux pas dire pour l'instant que le variant Omicron, c'est la solution qui va nous permettre d'éliminer la Covid-19 de nos vies, surtout qu'il peut toujours y avoir un nouveau variant. Donc on va rester prudent.
Omicron qui transformerait le Covid en une maladie endémique, c'est la thèse de l'Agence européenne du médicament. Et en France, que dit-on ? Le niveau d'immunité conféré par la vaccination et les contaminations est extrêmement élevé, dit Olivier Véran, le ministre de la Santé. Est-ce qu'on laisse filer le virus ? C'est ce que peut laisser penser le nouveau protocole à l'école, de simples autotests pour les autres quand un enfant est positif. D'où la question de Marc Fauvel et Salia Abrakia ce matin à Olivier Véran sur France Inter. Laisse-t-on filer le virus ? Il fait d'abord le point de l'épidémie, le ministre.
Il a déjà beaucoup circulé ce variant Omicron et que si on suit les courbes constatées dans certains pays qui nous précèdent, on pourrait s'attendre à être bientôt à une forme de pic. Mais est-ce que c'est un pic, encore une fois, ou est-ce que c'est un plateau ? Ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Les mesures traditionnelles, c'est-à-dire réduire d'un tiers les jauges dans les bars, les restos, etc., n'ont pas véritablement d'impact sur un variant aussi contagieux que celui-ci. On ne cherche pas à laisser circuler ce variant. On appelle les gens à respecter les gestes barrières.
On l'empêche moins qu'avant.
On teste justement les écoles. On le freine. Et d'ailleurs, on le freine avec une efficacité, puisque le facteur de reproduction du virus, il est en dessous de 1,5, alors que spontanément, il serait à 4 ou 5. Et là où je vous rejoins, c'est que l'indicateur clé qu'on nous surveillons, c'est la montée des hospitalisations. Or, pour l'instant, il semble que la courbe des hospitalisations soit moins élevée que ce qu'elle aurait pu être, suivant le modèle, par exemple, de nos voisins anglais. Maintenant, je ne fais pas, encore une fois, vraiment, nous surveillons cela, je peux vous dire, quasiment heure par heure. La charge pour nos soignants, elle est importante, et donc nous surveillons cela.
Le ministre de la Santé avec Marc Fauvel et Salia Abrakia sur France Info ce matin. Voilà pour les propos d'Olivier Véran. Alors, est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel ? Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Autour d'Emmanuel Macron, c'est aussi l'espoir, Simon.
L'espoir, oui, d'un début de sortie de crise à la fin du mois de janvier, encore 10-15 jours difficiles avant la décrue, la diminution du nombre de contaminations quotidiennes, mais surtout du nombre de cas graves à l'hôpital. Ensuite, le gouvernement espère commencer à lever progressivement les contraintes, à commencer par les jauges. Le premier truc qu'on fera sauter, nous dit une source haut placée. Certains évoquent même déjà un désarmement du pass vaccinal quand la situation le permettra, parce qu'il n'est même pas encore voté par le Parlement, mais Olivier Véran l'a assuré ce matin, il sera suspendu dès que nous pourrons sortir de l'état d'urgence sanitaire. L'idée générale, en fait, au sein de l'exécutif, c'est que les règles de base sont de toute façon désormais intégrées par tous. Les gestes barrières, le masque, les tests, la responsabilité individuelle, et donc que l'on a de moins en moins besoin de contraintes écrites. C'est le fameux « vivre avec le virus » que répète Emmanuel Macron depuis des mois. Pour le président quasi-candidat, si tout se passe comme il l'espère, le timing sera parfait. Une sorte de normalisation de la maladie qui lui permettra de se lancer officiellement en campagne courant février, comme prévu.
L'objectif est de vivre le plus normalement possible avec le virus, vient de déclarer le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. À propos du pass, il risque de n'être plus valable pour 5 à 700 000 personnes qui n'ont pas encore effectué leur rappel. Mais parmi elles, ce sera samedi, mais parmi elles, un nombre conséquent, dit le ministre de la Santé, ont été contaminés ces derniers jours et ne sont pas signalés sur l'appli Tous Anti-Covid. Quoi qu'il en soit, avec 370 000 contaminations annoncées hier, on est dans le dur, à l'hôpital, dans les entreprises, on en parle dans un instant, et dans les familles et à l'école. Le SNUIP et PFSU et une pléiade de syndicats appellent à la grève demain dans les écoles, collèges et lycées pour dénoncer ce qu'ils jugent être du mépris de leur ministre et des conditions de travail qui se dégradent. Les parents d'élèves de la FCPE appellent à se joindre à cette journée blanche, ne pas envoyer les enfants et ados à l'école. Alors comment s'organiser ? Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour. Bruno.
D'abord Laurent, à quoi s'attendre demain ?
Alors mouvement massif de toute évidence, 75% de grévistes selon les syndicats du premier degré, pas encore de chiffres officiels. Les estimations sont à nuancer néanmoins, certainement en dessous des chiffres affichés. Le nombre de grévistes devrait néanmoins dépasser les 50% demain, ce qui situe le mouvement au niveau de la mobilisation contre les retraites en 2019, ou pour ne parler qu'en termes de mobilisation enseignante, au niveau des années Allègre. Claude Allègre qui avait cristallisé l'exaspération des enseignants, c'était au début du millénaire en mars 2000. Pour revenir à aujourd'hui, certains départements ont basculé après l'intervention de Jean Castex lundi soir en mode « si le protocole change encore une nouvelle fois, pourquoi ne pas nous déclarer grévistes nous aussi au dernier moment ?»
Est-ce que les écoles peuvent être carrément fermées, Laurent ?
Alors en principe non, grâce au service minimum d'accueil que les municipalités sont tenues de mettre en place au-dessus de 25% de grévistes, mais entre Covid et mouvements de grève des équipes municipales et périscolaires, ce service minimum n'est pas garanti demain, alors pas de mauvaise surprise de dernière minute ou de porte close sans prévenir. Les parents concernés ont été avertis hier soir, les syndicats parlent de 50% d'écoles fermées, là aussi le chiffre est certainement à revoir à la baisse, en tenant compte du service d'accueil par les municipalités.
Alors justement, est-ce qu'on reçoit malgré tout les enfants à la cantine, à l'étude ?
Alors cela dépendra de la capacité évidemment des mairies à faire tourner les cantines, les temps périscolaires, déjà en manque de personnel tout au long de l'année. Au final, 15 à 20% des écoles pourraient être fermées demain sans aucun accueil possible pour les familles.
Qu'en est-il des collèges et lycées ?
Alors, en dessous du premier degré au niveau de la mobilisation, néanmoins, record mobilisation de 20 à 30% de grévistes dans les collèges et lycées. Les CPE et les assistants d'éducation en première ligne et en sous-effectif pour appliquer au quotidien le protocole sanitaire seront en revanche quasiment tous en grève demain, tout comme les infirmières scolaires.
Et l'une des deux grandes fédérations de parents d'élèves, la FCPE, appelle donc à se joindre au mouvement. Qu'en est-il de l'autre fédération, la PEP ? Laurent, vous avez posé la question à Olivier Toutain, le président de la PEP.
Nous n'appelons absolument pas à la grève et donc à une journée blanche demain. Nous considérons qu'au contraire, les élèves ont plutôt besoin d'être en classe. Donc pour nous, il n'est pas question d'appeler à la grève. Concernant l'école, nous ce que nous cherchons, c'est des solutions avec le ministère pour que l'école puisse rester ouverte. Il faut que l'on arrive à une solution qui soit plus pérenne. Ça passe par le fait de changer, par exemple, tout le système de flux d'air pour que l'on ait une gestion automatique plutôt qu'une gestion mécanique. Mettre en place, comme dans les sociétés, des systèmes de gestion de l'air qui sont totalement absents aujourd'hui dans les établissements ou très peu présents puisqu'on les retrouve dans les ateliers, on les retrouve à certains endroits mais pas dans les salles de cours, partout où cela est nécessaire. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
Et on notera le soutien de Marine Le Pen à la grève des enseignants qu'elle juge parfaitement légitime. Alors dans les entreprises, il y a les absences dues au Covid et les pénuries. On en a beaucoup parlé à l'automne. Elles sont loin de se résorber. Bonjour Pierre Pelouzet.
Bonjour Bruno Olivier.
Vous êtes le médiateur des entreprises. Les difficultés d'approvisionnement, c'est 20% des saisines dont vous êtes l'objet. On a beaucoup parlé du BTP, de l'automobile, ça va bien au-delà.
Oui, effectivement, vous le savez, notre rôle en tant que médiateur des entreprises, c'est de travailler à résoudre les problèmes entre les entreprises, souvent des petites qui ont des difficultés avec les grandes. On traite des sujets de retard de paiement, des sujets de rupture brutale de contrat. Et on a vu monter petit à petit, depuis l'automne, depuis la fin de l'année et encore en cette rentrée, des sujets liés à la rupture d'approvisionnement, la difficulté, la hausse des prix des matières premières et à la fois, de l'autre côté, au retard que prennent ces matières premières à être livrées.
Dans des secteurs en particulier ?
Alors effectivement, les secteurs, ça devient tout secteur. Vous l'avez cité, on a commencé par le BTP, on travaille de manière approfondie avec le BTP, l'automobile sur les semi-conducteurs. Ouais. Mais aujourd'hui, petit à petit, évidemment, quand on parle plastique, bois, matières chimiques, semi-conducteurs, on touche tous les secteurs, et donc il est important qu'on puisse réagir et travailler sur tous ces secteurs.
Et ce qui est important, vous en disiez un mot, c'est que souvent cela touche des petites entreprises qui du coup ont du mal avec des grosses qui elles ont les reins plus solides.
Oui, typiquement on retrouve des petites entreprises, des artisans, des PME, des TPE, avec un fournisseur qui leur dit ben moi c'est plus 20%, plus 30% et puis je ne te livrerai pas la semaine prochaine mais dans 3 mois, et un client qui dit ah ben attendez, on avait un contrat à prix ferme, donc vous débrouillez avec la hausse et si en plus vous me livrez en retard, je vous mets des pénalités de retard. Donc c'est pour ça qu'on, non seulement, bien sûr, il y a eu des aides qui ont été mises en place par le gouvernement pour aider financièrement la trésorerie de ces entreprises, mais on va aussi, c'est ce que m'a demandé Bruno Le Maire, mettre en place un comité de crise spécifique, c'est-à-dire qu'on va faire remonter au travers de tous les réseaux professionnels le nom d'entreprise qui ne jouerait pas le jeu de la solidarité, qui jouerait la raison du plus fort, ce qui est probablement la moins bonne manière d'aborder cette crise, pour pouvoir intervenir, les appeler et les faire changer de comportement. Parce que si on joue la solidarité, on a toutes les chances de s'en sortir tous ensemble le mieux possible.
Et quelle aide possible, une aide à la trésorerie dans ce contexte ?
Alors, il y a bien sûr les aides à la trésorerie, il y a des prêts qui ont été mis en place, prêts à l'industrie, le PGE qu'on connaît bien.
Prêt garanti.
Mais le gros de la trésorerie des entreprises, ça reste quand même leurs clients.
Ouais.
Donc si les clients jouent le jeu, payent bien, payent plus tôt, donnent des avances, prennent une partie de la hausse pour eux plutôt que de la laisser aux PME, on va pouvoir passer le cap parce que c'est là que ça va se jouer.
Et l'idée, c'est que donc ces pénuries irriguent un peu plus, enfin se transmettent un peu plus à l'économie. Au fond, les entreprises ont vidé leur stock au fil des semaines, c'est ça?
Oui, c'est ça. Au début, j'allais dire, ça allait bien, on avait du stock. Et donc, tant qu'on a du stock, tout va bien. C'est quand on commence à vouloir se réapprovisionner, on dit, eh ben, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à me réapprovisionner. On m'impose des prix de plus en plus chers. Non seulement il y a une pénurie de matières premières, mais en plus, il y a une pénurie de transport. Donc, le prix est d'autant plus fort. Ça va prendre un certain temps, on ne sait pas combien. Si on travaille tous ensemble et qu'on s'écoute les uns les autres, on va passer le cap. Si chacun joue la loi du plus fort, comme je le disais tout à l'heure, ça va faire des dégâts, surtout sur les petites entreprises.
On ne sait pas combien de temps, dites-vous, on n'a pas d'horizon à ce stade.
Non, c'est difficile, vous savez, ne serait-ce que le variant Omicron dont vous parliez tout à l'heure va avoir un impact, mais lequel? Est-ce que ça va faire baisser la demande ou est-ce que ça va faire baisser la production? Donc aujourd'hui, on ne sait pas, on voit un certain relâchement sur quelques matières premières, mais le gros des sujets reste très fort pour toutes les entreprises.
Pour l'instant, la Banque de France n'est pas inquiète sur les conséquences en termes de croissance. Il y a d'autres sujets que la pandémie a fait émerger, vu de votre bureau à vous de médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet?
Alors nous, on a beaucoup travaillé, évidemment, je l'ai cité, sur les retards de paiement.
Oui.
On l'a dit, la trésorerie, c'est la clé de la survie des entreprises. Donc une facture qui n'est pas payée, quand en plus on a des hausses de matières premières, ça devient terrible. Donc beaucoup de sujets de retard de paiement. Un certain nombre de sujets de rupture brutale de contrat. Je prends un exemple, vous êtes dans l'événementiel, vous aviez un événement qui était programmé, commandé par un client. Évidemment, du jour au lendemain, pouf, on arrête la commande.
On a beaucoup entendu les traiteurs à la fin de l'année.
Les traiteurs, l'événementiel. Et là, c'est normal d'arrêter l'événement, mais il faut le faire de la bonne manière. S'il y a une partie du travail qui a été faite, il faut la payer. Si on peut provisionner un petit peu pour refaire l'événement dans 6 mois, autant payer un petit peu d'avance pour aider ces entreprises, là aussi, à passer le cap.
Les bailleurs sont aussi des entreprises. Est-ce que vous voyez émerger des difficultés de paiement de loyer?
Alors, ça a été, là aussi, jusqu'à 20% de nos saisines en 2020.
Oui.
Ça reste un sujet 2021. Évidemment, chaque fois qu'il y a un impact sur les commerçants, sur les restaurateurs, sur les bars, il y a une difficulté pour ces entreprises à payer leur loyer.
Ouais.
Et on fait du coup beaucoup de médiation aussi entre les bailleurs et les locataires. Et que d'ailleurs, toutes ces entreprises, tous ces commerçants n'hésitent pas à nous saisir. Je rappelle le site en passant,
médiateurdesentreprises.fr.
Hein, c'est important que tout le monde connaisse la porte d'entrée. Vous aurez un médiateur partout en France qui vous rappellera et en toute confidentialité fera une médiation entre vous et votre bailleur, votre client, votre fournisseur.
Et je note l'appel à la solidarité entre entreprises en ce moment. Merci Pierre Pelouzet.
Merci à vous.
D'être passé dans les studios de France Inter. Le Covid, c'est aussi la question du moment dans le monde du tennis. Novak Djokovic, non vacciné, pourra-t-il participer à l'Open d'Australie qui commence lundi prochain? Le tirage au sort a lieu demain soir, et l'incertitude reste complète. Le numéro 1 mondial reconnaît des erreurs dans ses déclarations administratives et son comportement en décembre. Il a accordé une interview à des journalistes de L'Équipe alors qu'il se savait malade. En Allemagne, nouvel élément, l'hebdomadaire Der Spiegel le soupçonne d'avoir antidaté le test positif présenté pour justifier l'exemption de vaccin. Bref, la star du tennis ne sort pas grandie de ses jours de décembre-janvier. Et Guillaume Batin, les sponsors commencent à s'inquiéter.
Pour continuer à être fort, il faut rester silencieux, dit la publicité de Peugeot avec Novak Djokovic sur les réseaux sociaux. Le constructeur automobile ne commente pas l'affaire. En Australie, trop politique, dit son service de communication. Le sujet est tout aussi embarrassant chez Lacoste, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025 à 10 millions d'euros par an. L'affaire est bien trop embarrassante, selon Magali Teznas du Moncel, déléguée générale de Sportsora, qui regroupe 230 acteurs de l'économie du sport.
L'image de marque est un des objectifs du sponsoring sportif peut être dégradé. Donc ce sont des situations qui évidemment sont très désagréables pour les marques, qui sont complexes à gérer, et c'est pour ça qu'elles ne prennent pas position. Vous savez qu'il y a, dans certains contrats, il peut y avoir des clauses qui permettent à une marque de renoncer à son contrat si elle estime que son ambassadeur sort des clous, et je pense qu'elles doivent être en train de se poser des questions.
Il y a les conséquences sur le consommateur, mais aussi en interne, au sein de ces entreprises partenaires, soumises à la contradiction d'avoir un ambassadeur qui ne respecte pas les règles et des milliers de collaborateurs à qui on demande de les respecter scrupuleusement depuis le début de la crise sanitaire.
Voilà pour la page Covid de ce journal, et je vous rappelle que dans une dizaine de minutes vous pourrez dialoguer avec une pédiatre, le docteur Brigitte Viré, qui sera avec nous pour toutes vos questions sur le thème « Comment les enfants traversent-ils cette période ?» Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter, intervenez via la rubrique « Réagir ». En bref, alors que le 1er mars prochain, un pôle judiciaire dédié aux affaires non résolues verra le jour à Nanterre. Dans l'une de ces affaires, une personne a été placée ce matin en garde à vue, 9 ans après les faits. C'est la tuerie de Chevaline, tout près du lac d'Annecy. Quadruple meurtre, un Britannique d'origine irakienne, sa femme et sa belle-mère tués de plusieurs balles dans la tête. Un cycliste, sans doute victime de s'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, avait aussi été tué. La garde à vue a été décidée pour procéder à des vérifications d'emploi du temps et des perquisitions dans un domicile, précise la procureure d'Annecy.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
100 000 soldats russes à la frontière ukrainienne et cette mise au point de la numéro 2 de la diplomatie américaine, il n'y a aucune raison d'être optimiste. Voilà l'ambiance dans laquelle commencent les discussions entre Russie et OTAN au siège de l'Alliance Atlantique à Bruxelles. Va-t-on vers une guerre en Ukraine, considérée par Moscou comme appartenant à sa zone d'influence? La Russie veut un double engagement de l'OTAN, que l'Ukraine n'intègre pas l'Alliance Atlantique et que les soldats américains se retirent des pays les plus à l'est, proches de la Russie, autrement dit. Revoilà donc l'OTAN, cette alliance des pays de l'Ouest pour contenir le bloc soviétique au temps de la guerre froide qui revient à la une. Alors nous allons en Ukraine dans un instant, qu'attend-on de ces négociations? D'abord avec vous Christian Chesneau, petit rappel sans doute utile, à quoi sert l'alliance atlantique aujourd'hui et où est-elle active?
Longtemps gardienne du rideau de fer face au pacte de Varsovie, l'OTAN est aujourd'hui mobilisée sur de nombreux fronts hors du continent européen. Après les attentats du 11 septembre, l'OTAN se range sous la bannière de la guerre contre le terrorisme de George Bush. Le nouvel ennemi n'est plus le communisme, mais l'islamisme radical. En Afghanistan, l'OTAN prend la direction de la Force internationale d'assistance à la sécurité, la FIAS, entre 2003 et 2014. En Irak, l'organisation ne participe pas au renversement de Saddam Hussein, mais contribue à la formation des militaires de la nouvelle armée irakienne. En revanche, en Libye, elle mène une campagne militaire pour déboulonner le colonel Kadhafi en 2011. Aujourd'hui, face aux nouvelles menaces, l'OTAN lutte contre la piraterie dans la Corne de l'Afrique. En Méditerranée, elle est engagée contre les groupes terroristes et le trafic d'armes à destination de la Libye. L'organisation transatlantique apporte également son soutien à l'Union africaine et investit dans le domaine de la cyberdéfense. Elle a enfin développé des outils de gestion de crise pour intervenir selon les besoins de ses membres.
Et c'est en Ukraine que l'on suivra de particulièrement près les discussions aujourd'hui à Bruxelles. La Russie demande aux Occidentaux de s'engager à ce que le pays n'intègre jamais l'OTAN, donc ce serait un cas de guerre pour Vladimir Poutine. Envoyé spécial de France Inter à Kiev, Eric Biegala.
L'Ukraine est candidate à une intégration dans l'Alliance Atlantique depuis 2008. Candidature gelée, puis remise sur la table en 2014 après la prise de la Crimée par la Russie et la guerre lancée par elle dans le Donbass. Officiellement, l'Ukraine a vocation à intégrer l'Alliance sans qu'un plan de route pour ce faire ne lui ait été accordé. Andrei Yermak est le chef de l'administration présidentielle en Ukraine en charge des relations extérieures.
Quand cette adhésion pourra-t-elle se produire? C'est vrai qu'on l'attend depuis longtemps, mais il y a des oppositions au sein même de l'OTAN. Et si certains pays de l'Alliance s'opposent à notre adhésion, je pense que nous aurions le droit de savoir lesquels.
Au printemps 2008, c'est l'Allemagne et singulièrement la France qui s'était opposée à l'intégration de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN pour ne pas froisser les susceptibilités russes. Ça n'avait nullement empêché Moscou de lancer une offensive armée contre la Géorgie quelques mois plus tard. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est pareillement visée par une Russie dont les troupes sont déjà dans le pays, remarque encore Andrei Yermak.
Sans un règlement du conflit en Ukraine, il est illusoire de commencer à discuter de sécurité en Europe. Je ne vois pas comment il serait possible d'en parler avant que nous ayons mis un terme à ce conflit, le plus important en Europe.
À ses débuts, l'OTAN était une alliance défensive visant à contrer les possibles offensives soviétiques en Europe. Les offensives d'aujourd'hui ne sont plus soviétiques, mais sont toujours pilotées depuis Moscou.
En Grande-Bretagne, cela chauffe pour Boris Johnson. Le Premier ministre reconnaît avoir participé à une soirée au 10 Downing Street en plein confinement. Il présente ses excuses. L'après-midi politique devrait être agité à Londres. Les sorties ciné du mercredi. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Au programme cette semaine, deux adaptations et un premier film inspiré de la vie de son auteur. Commençons par Nessim Chikawi, justement, qui sort Placé.
Au moment où on se parle, monsieur, il y a 340 000 jeunes qui font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Elle est très touchante, je te jure.
Après, ouais, c'est un cas complexe.
Avant d'être scénariste d'Etuche, il a travaillé pendant 10 ans comme éducateur spécialisé dans une maison d'enfants. Il s'occupait de mineurs en difficulté. Eh bien, c'est cette histoire qu'il raconte dans son premier film, Le quotidien sous tension, les fugues, la violence, le manque surtout de moyens du secteur social. C'est un film qui sonne juste, le constat est assez dur, mais le résultat étonnamment lumineux, assez proche dans l'énergie du film Patient de Grand Corps Malade qui traitait, lui, du handicap. Shaïn Boumedim, qu'on a beaucoup vu chez Kechiche, apporte aussi beaucoup d'humanité à ce personnage d'Elias, devenu éducateur par accident après avoir loupé le concours d'entrée à Sciences Po.
De la vie en foyer à celle des agents d'entretien qui travaillent sur les ferries. C'est la première des deux adaptations que vous mettez en valeur cette semaine. Florence Aubenas avait fait de ce sujet un livre sorti en 2009, Le quai de Ouistreham. Emmanuel Carrère l'adapte sur grand écran.
Et c'est sans doute le choc cinéma de ce mercredi. Une plongée vertigineuse dans le quotidien d'un groupe de femmes de ménage, jouées ici par des comédiennes non professionnelles que vous ne serez pas prête d'oublier tant leur présence crève l'écran aux côtés de Juliette Binoche. Il y a évidemment cette précarité que Florence Aubenas documentait très bien dans son livre, qu'on retrouve à l'écran. Le point de départ, c'est toujours l'histoire d'une écrivaine qui vient s'inscrire à Pôle emploi sous une fausse identité pour les besoins de son livre. Elle veut raconter les cadences infernales, la dureté de certaines tâches. Quand vous travaillez par exemple sur un ferry, bien c'est pire que tout. Tout cela est très bien mis en scène dans le film. Emmanuel Carrère a vraiment relevé le défi d'offrir un visage à toutes ces femmes invisibles. C'est un vrai film social que l'on va suivre comme un thriller, et c'est aussi une très belle histoire d'amitié.
Le quai de Ouistreham, donc, est la deuxième adaptation de la semaine, cette fois d'une pièce de théâtre. C'est Adieu, Monsieur Hoffmann, récompensé en 2018 de 4 Molières à l'époque.
Les Allemands contrôlaient tout le monde.
Ne vous inquiétez pas, Monsieur Hoffmann. Vous allez rester caché le temps, on trouve une solution.
Alors c'est l'histoire, pendant la guerre, d'un bijoutier qui va passer la main à son assistant pour échapper à la déportation, tenter d'aller se réfugier avec sa famille en zone libre. Il n'y arrivera pas dans les temps, hélas, et sera condamné à vivre caché dans le sous-sol de son magasin, aidé par cet ancien employé qu'il n'avait pas toujours bien traité avant la guerre et dont la personnalité va se révéler au cours du film. Ceux qui ont vu la pièce récompensée aux Molières seront peut-être un peu surpris par la tonalité plus du tout satirique de cette adaptation. Très sobre, avec deux comédiens que tout le monde connaît, Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, une mise en scène elle aussi assez classique. Le résultat, il n'empêche, est efficace avec un film davantage centré sur la blessure d'ego et la compromission morale, savoir où chacun met la barre dans ce huis clos dominé par la peur.
Merci Corinne Pellissier. Et puis à propos de cinéma, le prix Louis Deluc a été attribué il y a quelques minutes. Le meilleur long métrage 2021 est le film Onoda d'Arthur Harari, histoire d'un soldat japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Meilleur premier film, Vers la bataille d'Aurélien Verne Lermuzio. Allez, avant la météo, voilà peut-être un sujet qui va ouvrir une discussion chez vous. Reprenez un peu pour voir vos photos de famille, que ce soit sur le téléphone ou en papier. Qui voyez-vous? Alors les enfants, évidemment, monsieur avec eux, bien souvent. Et madame, où est-elle? Eh ben, madame est absente, c'est elle qui prend la photo. Une bibliothécaire a lancé le débat sur les réseaux sociaux après avoir trié elle-même ses propres photos, Mathilde Deimy.
Oui, c'est une réflexion qui a trouvé écho chez beaucoup de femmes, et notamment Anaïs, en voulant faire un album pour le premier anniversaire de son fils. Cette professeure d'anglais a trouvé des photos de son bébé, donc avec son mari, mais pas avec elle. Alors, elle a fouillé dans la galerie de son conjoint.
J'essaie de trouver des photos de moi et de mon bébé. Il y en a peu, notamment des photos spontanées, des gestes du quotidien, des photos témoignages qui sont les plus belles et les plus importantes. Pour les photos, on dirait vraiment que c'est lui qui s'occupe de notre enfant à 90% du temps.
Des hommes qui sont donc plus présents dans les tâches quotidiennes, Bruno, et que les femmes prennent beaucoup en photo. Un constat partagé par Claudine Veuillet-Combier, psychologue à l'Université d'Angers, qui a co-dirigé avec Emmanuel Graton une étude sur les photographies de familles contemporaines.
L'homme ne ressent pas le besoin, lui, d'avoir la même démarche et finalement de garder trace du fait que sa femme s'occupe des enfants, comme si finalement, de façon traditionnelle et stéréotypée, il était tout à fait normal que les femmes s'occupent des enfants. À quoi bon faire trace de tout ça dans l'album de famille ?
Elle relève un premier changement. C'était il y a quelques années déjà, quand les femmes ont pu massivement accéder aux appareils photo, auparavant plutôt laissés aux hommes. Et cette prise de conscience qu'elles sont peu visibles est une nouvelle étape, dit Claudine Veuillet-Combier.
Le pouvoir de l'image est énorme et les femmes ne sont pas idiotes, elles ont compris qu'elles pouvaient aussi se saisir de ce pouvoir-là pour s'exprimer, témoigner, revendiquer une place. Je pense que ce mouvement va avancer, c'est certain.
Reste que la star incontestée des albums et fond d'écran, Bruno, reste l'enfant.
Et l'enfant.
Et non la mère ou le père.
Merci beaucoup Mathilde Deimy. Et on peut avoir les interviews détaillées des deux chercheurs que vous avez interviewés, chercheuses, sur franceinter.fr. FR, dans un instant, la météo.
Savez-vous ce qui est original?
Les originales du laboratoire Organon.
ces 22 médicaments
au prix de leur générique.
Ça, c'est l'idéal. Même marque,
même boîte,
même présentation.
Pour bien suivre son traitement, garder ses repères,
c'est capital.
Organon Original, tous libres et égaux en choix. Parlez-en à votre médecin ou allez sur organon.fr.
Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre. Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
Et sur franceinter.fr, à propos des photos, c'est un chercheur, une chercheuse, la parité, Mathilde Dehimy, y tient et c'est normal. La météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Après-midi bien ensoleillé, sauf sur le nord-ouest.
Oui, un soleil radieux hein, sur toutes les régions au sud de la Loire jusqu'au Grand Est, aux Alpes et au pourtour méditerranéen. La dissipation des grisailles pourra quand même être un peu plus lente entre la Touraine, l'Orléanais et les vallées du Massif central. Quelques plaques de nuages bas pourront aussi localement rester tenaces entre la région lyonnaise et le Dauphiné ou entre le Tarn et le sud des Landes. Ciel nettement plus chargé sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, les nuages envahissant aussi le bassin parisien et les Ardennes. Alors quelques trouées se dessineront tout même vers le Boulonnais ou le Finistère. Pour cet après-midi, les maximales seront comprises entre 1 et 6 degrés sur un large quart nord-est, 5 à 12 degrés sur le reste du pays, avec jusqu'à 15 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse. La nuit prochaine, les gelées seront encore fréquentes et aussi plus fortes que la nuit dernière, notamment entre le sud-ouest et le centre-est. Et puis restez prudents, sur le sud-ouest, les services de Vigicru maintiennent 5 départements en vigilance orange pour des risques de crues.
Sébastien Léas, Météo France, il est 13h31.
France Inter, le 13-14. Bruno Dillon.
Près de 370 000 contaminations au Covid hier en France. Un appel à la grève à l'école demain. Une campagne de vaccination chez les 5-11 ans qui décolle très, très lentement. Comment les enfants et leurs parents traversent-ils cette période? C'est notre sujet jusqu'à 13h45. Je vous attends au standard 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Bonjour docteur Brigitte Viret.
Oui, bonjour.
Vous êtes pédiatre libérale à Dijon et présidente du syndicat national des pédiatres français. Question toute simple d'abord, docteur, comment vont les enfants et familles que vous recevez en ce moment?
Eh bien, moi, je trouve qu'ils ne vont pas très bien, qu'ils vont moins bien que ces derniers mois, parce qu'ils ne savent plus du tout comment réagir et, je dirais, si je puis me permettre, à quel saint se vouer avec cette vague Omicron qui est en train de déferler.
Je voudrais vous faire part de ce message-là sur l'appli. Je voudrais demander à Madame Viret pourquoi nous ne voyons pas les pédiatres et psy se mobiliser davantage pour défendre la santé physique et psychologique de nos enfants. Ils subissent depuis près de 2 ans des privations de tout. Pas de câlins avec les grands-parents, pas d'école, pas de possibilité de respirer librement avec le masque sur le nez, pas de moments festifs à l'école. Cet environnement ne peut avoir que des impacts négatifs sur leur développement. Que faisons-nous pour changer cela? Vous avez des messages, si j'ose dire, ou des paroles de cette nature-là dans votre cabinet?
Alors, exactement de cette nature-là, mais effectivement, on est assez attentif hein, au comportement des enfants. On essaye d'expliquer les choses. Après, de ce que dit la personne là, dans votre message, nous, c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut dire les choses. On peut expliquer aussi bien à nos autorités qu'à d'autres personnes que effectivement ça devient de plus en plus compliqué pour les enfants. On a alerté sur les problèmes du confinement et tout ce taux de dépression qui avait augmenté chez des petits. Voilà, on alerte. Après, on est plus ou moins entendu. C'est vrai que ce qui se passe à l'heure actuelle avec ces tests à répétition, avec des parents qui courent partout pour essayer de faire tester leur enfant parce que sinon ils ne peuvent pas le remettre à l'école, c'est devenu assez ubuesque quand même cette façon de faire parce qu'ils y sont en permanence, aller se faire tester. Hein. Donc, c'est peut-être pas ça la solution.
Pour rester sur la santé psychologique, ce message de Benjamin, notre fille de 3 ans et demi, parle régulièrement du virus, de tests, etc. Et c'est normal, nous dit Benjamin. Mais à quel moment, tout de même, faut-il s'inquiéter si ça devient trop récurrent?
Oui, alors je pense qu'à 3 ans et demi, si elle en parle comme ça, il faut peut-être s'inquiéter. Mais ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on dit dans l'entourage proche de l'enfant. Donc à 3 ans et demi, je ne sais pas si elle est déjà, je pense qu'elle est déjà scolarisée. Donc ça dépend comment c'est abordé effectivement à l'école. Et ça dépend aussi dans la réaction de la famille. Est-ce qu'on est soi-même angoissé? Oui. Par la situation, parce que c'est vrai que si on est angoissé, on transmet son angoisse à son enfant. Les enfants sont des éponges, hein, et tout ce qu'on peut ressentir, ils le ressentent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, parce que il faut être quand même détendu vis-à-vis des enfants, et je pense que pour certains parents, c'est compliqué, parce qu'avec effectivement ces chaînes infos qui tournent en permanence sur le sujet du Covid, avec des gens qui succèdent sur les plateaux qui disent jamais deux fois de suite la même chose, je comprends que ça angoisse un peu tout le monde.
Question de Jérôme au standard pour vous, docteur Viré. Bonjour Jérôme. Est-ce que Jérôme est avec nous au standard? Non, pas encore. Alors Mathilde au standard. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Nous vous écoutons, soyez la bienvenue.
Bonjour. Donc ma question concerne les tests, en fait. Pourquoi en France on se fait à faire des tests nasopharyngés, donc très profonds au fond du nez, alors que dans d'autres pays, moi je reviens du Canada, là les tests sont faits au niveau de la narine, donc c'est beaucoup moins invasif. En Allemagne, donc j'habite en Alsace, donc chez nos voisins allemands, les tests qui sont faits tous les jours par les enfants à l'école sont aussi nasaux. Et ça serait beaucoup mieux accepté par tout le monde. Donc je ne comprends pas pourquoi on fait encore des tests si profonds et si invasifs en France.
Docteur Viré, quelle réponse ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Effectivement, nous commençons à avoir à notre disposition des tests nasaux. Et en particulier, il y a une marque qui convient, enfin je ne connais pas toutes les marques, mais moi il y a une marque que j'ai qui convient très très bien aux enfants, parce qu'on enfonce d'un centimètre ou un centimètre et demi. C'est assez large. Donc voilà, c'est absolument pas traumatisant pour les enfants, et ça a l'air d'être assez fiable, puisqu'on l'a testé pour se rendre compte, parce que même ce qu'on propose le plus souvent pour faire les tests nasaux, c'est exactement comme les tests nasopharyngés, et c'est quand même un coton-tige tout fin qu'il faut quand même enfoncer bien dans le nez. Alors que celui-là, c'est un tampon qui s'enfonce de 1 cm, à peu près 1 cm et demi, et vraiment, même chez les tout-petits, c'est très très bien toléré.
Test salivaire, ça se pratique ou pas du tout ?
Ça peut se pratiquer, mais c'est compliqué, parce qu'il faut quand même que l'enfant arrive à cracher pas mal de salive. Oui. Donc chez les petits, c'est pas possible. Et c'est un tout petit peu moins fiable quand même. Mais bon, répéter comme souvent, ça va. Mais c'est pas si facile que ça.
Question de Jérôme. Nous avons retrouvé Jérôme au standard. Soyez le bienvenu, Jérôme.
Oui, bonjour. Bonjour la France Inter. En fait, je vais faire vacciner, non sans appréhension, mon garçon de 12 ans cet après-midi à 40 km de chez moi, parce que j'ai pas trouvé plus proche. Ma question, c'est la suivante. Il a eu le Covid en avril 2021 avec un test antigénique. Il me semblait que la haute autorité de santé stipulait bien qu'une infection conférait une immunité sans durée de temps. Et ma question, c'est, il ne devrait avoir qu'une dose.
Et là, c'est sa deuxième dose que vous apprêtez à...
Non, il n'est pas vacciné. Donc d'accord. C'est la première dose qu'il va avoir. Donc, je voudrais être certain qu'il n'ait bien qu'une dose, puisqu'il est arrivé exactement la même chose à sa mère. Et on lui a dit, il faut deux doses plus une dose de rappel. Donc, je ne comprends pas pourquoi la haute autorité sanitaire stipule qu'une infection est équivalente à une dose. Je ne comprends pas pourquoi on rajoute toujours ce que stipule cette haute autorité sanitaire.
Alors,
je voudrais être bien certain que mon enfant n'ait qu'une seule dose cet après-midi pour avoir son pass vaccinal valide.
Docteur Viré,
vaccinal complet.
Ouais, que peut-on répondre à Jérôme? Donc enfant positif en avril, première dose là, ça suffit.
Ça suffit, il faut que la personne qui lui fasse le vaccin clôture à ce moment-là la vaccination, et par contre, il faut amener le résultat du test. Pour bien montrer qu'effectivement il a eu un test positif, et normalement c'est terminé, en tout cas pour l'instant, parce qu'on se rend bien compte que il y a eu la troisième dose pour les adultes. Est-ce qu'il y aura une dose de rappel pour les enfants? Pour l'instant on n'en est pas là, mais rien ne dit que dans 6 mois il n'y aura pas une troisième dose pour les enfants. On ne sait pas à l'heure actuelle, hein. Mais Pour l'instant, il a eu le Covid en avril dernier. Donc normalement, avec le résultat du test antigénique, c'est une dose et c'est terminé.
Jérôme, vous avez commencé votre intervention en disant « je vais le faire vacciner non sans appréhension ». Est-ce que je peux vous demander pourquoi ?
Je ne vous cache pas que moi, je ne suis pas vacciné. En fait, oui. Si je fais vacciner mon fils, pas du tout pour par responsabilité. C'est juste histoire qu'il ait son passe et qu'il ne soit plus embêté. Moi, je trouve qu'on se moque quand même beaucoup des gens. Ça fait 30 ans que l'hôpital est au banc de la nation. Ça fait 12 ans que le point d'indice des fonctionnaires n'a pas bougé. Donc, on met le doigt sur les non-vaccinés, pour être poli, en disant qu'ils encombrent le système de santé, alors que ça fait quand même 30 ans que le système de santé est dans un état catastrophique. Donc, je trouve qu'on se moque du monde, en fait.
Docteur Viré, merci Jérôme pour votre intervention. Docteur Viré, sur la vaccination et des ados et des enfants, est-ce que vous rencontrez des familles réticentes et qu'est-ce que vous leur dites ?
Oui, c'est effectivement pas si facile que ça. On a un peu soit les personnes qui attendaient la possibilité de faire vacciner leur enfant et qui sont extrêmement demandeurs, et puis d'autres personnes qui préfèrent attendre. Alors il y a deux choses à considérer. Comme toujours, quand on fait un vaccin, il faut toujours partir de la balance bénéfice-risque. L'inquiétude qu'on pouvait avoir, parce que quand on avait vu que chez des jeunes, il y avait plus de myocardite avec le vaccin, c'était est-ce que ça serait pareil pour les enfants. Donc maintenant, on sait que il y a très très peu de cas de myocardite après vaccin chez les enfants. Je rappelle, c'est le tiers de la dose adulte. Hein. Donc aux États-Unis, sur plus de 8 millions de doses qui ont été faites, il n'y a eu que 11 cas de myocardite, ce qui est très peu. Et pour les enfants, on sait que quand ils ont eu le Covid, il y en a un sur 4000 qui peut ensuite faire ce qu'on appelle un PIMS, c'est-à-dire une réaction inflammatoire globale qui arrive 3 semaines ou 1 mois après l'épisode aigu du Covid. Donc, vu la façon dont maintenant on voit se propager l'Omicron, on se rend compte que effectivement il y a beaucoup d'enfants qui sont positifs. Donc le 1 sur 4000 qui était pas très important quand il y avait peu d'enfants touchés risque de devenir important. Donc la balance bénéfice-risque est effectivement en faveur du vaccin.
Message d'Ahmed qui nous dit « Ma petite fille a 9 ans, on regarde la situation complexe pour trouver un lieu pour se faire tester. » Elle a écrit au ministre de la Santé pour lui dire son étonnement de ne pas trouver de pharmacie. Elle termine par lui souhaiter bon courage et le remercie pour son travail. Des familles qui ont du mal à trouver de quoi se faire tester, vous en voyez beaucoup ?
Oui, bien sûr, parce que il y a des pénuries de tests, il y a des pénuries de réactifs quand on fait les PCR. Et donc nous, on voit de plus en plus les parents qui nous demandent de venir se faire tester chez nous. Donc ce qui est aussi un peu compliqué pour nous, parce que entre faire effectivement les consultations habituelles qu'on fait, les enfants malades d'autre chose que du Covid, les enfants malades du Covid, et faire en plus des tests comme ça, ça devient compliqué à gérer dans la gestion des rendez-vous et dans le temps imparti, quoi, si vous voulez. C'est vrai que c'est... Mais je comprends cette demande des parents, parce que on voit bien qu'il y a des files d'attente. Ils font la queue pendant au moins 1 heure, voire plus. Alors chez moi à Dijon, il fait quand même un peu froid là en ce moment. Donc pour les enfants, c'est quand même c'est très très difficile pour eux. Moi, j'ai tendance à dire parfois que c'est un peu limite de la maltraitance.
Est-ce que, on en parle pour les adultes, est-ce que c'est le cas aussi pour les enfants ? Il y a beaucoup de prises en charge d'autres maladies qui sont retardées avec du coup des pronostics de soins qui se dégradent à cause du Covid.
Oui, c'est pareil pour les enfants. Alors peut-être un peu moins prégnant que pour les adultes, mais quand même, il y a des choses. Moi, j'ai bien vu, par exemple, une enfant qui avait une intolérance aux protéines de lait de vache. Il fallait faire la réintroduction du lait de vache en milieu hospitalier. Eh bien, elle a attendu très très longtemps, oui, cette maman. Alors, c'était pas hyper grave, mais enfin, c'est un régime sans protéines de lait, c'est quand même compliqué à suivre sur du long terme. Donc, voilà. Et on peut avoir d'autres prises en charge avec des interventions chirurgicales éventuellement qui peuvent être tardées.
Merci, docteur Viret, d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions des auditeurs de France Inter. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre dans le 13-14, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Naissance de la Grèce moderne aujourd'hui.
Eh bien, première assemblée nationale à Épidaure, le 12 janvier 1822.
Vous nous raconterez ça dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton avec la chef d'orchestre Zaya Ziwani. Et tout de suite, c'est une chanson. Il n'est pas candidat à la présidentielle, mais il a un programme. L'humoriste Pierre-Emmanuel Barré publie aujourd'hui En route, mon projet pour sauver la France, est aux éditions Marabout. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Pierre-Emmanuel Barré est à votre micro, le temps d'une chanson.
Il m'a tout d'abord parlé de cet ouvrage, 190 pages, dans lesquelles ce natif de Quimperlé détaille son projet pour une France plus écologique, dynamique, démocratique, une France plus sûre, plus moderne, égalitaire et solidaire. C'est évidemment un programme pour de rire.
On approche des élections présidentielles et c'est vrai qu'il faut quelqu'un de juste, d'honnête, de droit, etc. Et c'est pour ça que je me présente pas. Mais je pense que personne est en mesure de revendiquer ses qualités. Et puis, je trouve qu'il faut forcément une petite déviance mentale pour vouloir être le chef de tout le monde. Et du coup, je me demande si les mecs feraient pas mieux de se présenter devant un psy plutôt que devant les Français. Et moi, j'en profite pour glisser quelques idées, mais ça reste des blagues, ça reste des conneries, parce que c'est de l'humour, et que le premier objectif, c'est de faire rigoler les gens, et pas de changer le monde. Ce serait bien présomptueux.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourses et hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie en palais une.
Et c'est donc un titre de Georges Brassens qu'a choisi Pierre-Emmanuel Barré, Frédéric.
Brassens, dont il connaît assez peu le répertoire. Je suis pas spécialement fan, m'a-t-il dit, précisant que mélodiquement pour lui, c'est un peu tout le temps la même chose, mais cette ballade des gens qui sont nés quelque part, chanson de 1972, elle se moque d'un sujet dont il aime lui-même se moquer.
C'est une chanson qui est sur le nationalisme un peu principalement et sur la fierté du nationalisme. Et j'aime bien parce que c'est quelque chose qui est vraiment complètement absurde, parce que quand on est fier de quelque chose, en général, c'est quelque chose qu'on a fait. Et c'est vrai que le nationalisme, c'est vraiment la fierté d'être né quelque part. Alors qu'en fait, voilà, si on est né en France, en Suède, en Algérie, n'importe où, c'est plutôt sa maman qui a poussé et qui a eu une épisiotomie de 5 cm. On n'a pas fait grand-chose.
Vous n'êtes pas particulièrement fier d'être né à Quimperlé?
Non, mais je suis content, parce que ça fait une adolescence rythmée. Par l'alcool, les antidépresseurs, tout ça. Non, je suis content d'y être, mais j'en tire aucune fierté.
Parce qu'il y a une identité bretonne.
Oui, mais l'identité, moi, je trouve que c'est pas très très intelligent comme concept. Surtout que le concept d'identité française qui est rabâché, par exemple, tout le temps, c'est toujours Victor Hugo, c'est toujours les Lumières et tout ça, alors que on efface volontairement toute l'identité négative, toute la collaboration, toute la colonisation, l'esclavagisme. Enfin, on efface tout ça et on prend que ce qu'il y a de bien dans l'identité pour se construire une identité artificielle un peu con.
C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur, les pauvres malchanceux, les petits.
C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur, les pauvres malchanceux, les petits maladroits d'esprit, qui n'eurent pas la présence d'esprit, de voir le jour chez eux. Moi, j'aime bien cette phrase-là dans la chanson, parce que non seulement ils sont fiers d'être nés quelque part, mais en plus, ils aiment pas les gens qui sont nés ailleurs. Donc c'est vraiment doublement con.
Il dit pas con, Brassens, il les qualifie d'imbéciles heureux.
Moi, gros con, ça me va très bien.
Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Pourquoi vous trouvez que c'est intéressant d'écouter cette chanson-là en ce moment?
Bon, c'est intéressant un petit peu tout le temps, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est très très décomplexé, le nationalisme, avec la campagne. C'est une campagne qui est quand même très très à droite, et j'aime bien quand d'autres gens que moi ont raison sur mes propos.
C'est une chanson que vous auriez pu écrire?
Ah oui, mais pas aussi bien.
Que la vie serait belle
en toutes circonstances, si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
La balade des gens qui sont nés quelque part. Georges Brassens, c'était donc Frédéric, le choix de l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré.
Qui publie aujourd'hui même chez Marabout, En route, mon projet pour sauver la France. Il est par ailleurs en tournée avec son dernier spectacle. Et il publie sur YouTube, deux fois par semaine, son journal de campagne, vidéo de 2-3 minutes les mardis et les vendredis. C'est mordant, très mordant. Aussi méchant que drôle, et tout le monde en prend pour son grade.
Merci Frédéric Pommier, à demain.
À demain.
Le feuilleton, une semaine dans la vie de la chef d'orchestre Zaya Ziwani. Dans les épisodes précédents, elle racontait à Amélie Perrier son enfance dans une famille mélomane en Seine-Saint-Denis, la naissance de sa vocation pour la musique et la direction d'orchestre. Mais être une chef n'est pas vraiment un atout dans le monde de la musique classique. Alors Zaya Ziwani a décidé de créer son propre orchestre symphonique Divertimento à Stain, dans son département. Elle raconte à Amélie après une répétition.
Allez, s'il vous plaît. Un et. Là, on vient juste de faire la danse bacchanale.
C'est votre tube à Divertimento ?
Un peu, ouais. Je dirais que les programmateurs, souvent, du coup, ils aiment bien qu'on la joue parce que, bon, elle est belle, elle est dynamique. Et puis, du coup, c'est un peu notre signature, en effet.
Quand j'ai commencé justement à m'intéresser à ce métier de chef d'orchestre, souvent, on regardait des documentaires à la télé sur la musique, sur les chefs d'orchestre. Je voyais que c'était compliqué pour une femme de diriger. Et je me suis dit, bon, bah, Zaya, toujours un peu dans la continuité de cette éducation de mes parents qui m'ont toujours dit, bah, faut se débrouiller. Si on t'ouvre pas la porte, tu passes par la fenêtre, puis sinon tu passes par le toit, puis par la cheminée, puis sinon, bah, tu défonces la porte, hein. Donc je me suis dit, bah, la solution, c'est peut-être ça, c'est de créer son propre orchestre. Et c'est comme ça qu'est née, un peu l'idée de Divertimento. C'était, parce que j'avais envie de diriger, ça, il n'y a pas de sujet, mais que j'avais aussi envie de partager aussi une aventure musicale et humaine. Et j'ai proposé justement aux meilleurs éléments du conservatoire à Paris, aux meilleurs éléments du conservatoire de Stain, de s'associer à ce projet. Et ma sœur jumelle, évidemment, Fethouma, qui m'a aidé beaucoup à construire ce projet, et d'autres amis musiciens, en leur disant, ben voilà, est-ce que vous voulez me suivre dans cette aventure ? Puis moi, je commençais déjà à me dire, quel est le chef d'orchestre, quel est l'artiste que j'ai envie de devenir au XXIe siècle ?
À ce moment-là, vous avez 20 ans, hein, c'est ça ? On est à la fin des années 90, début des années 2000 ?
C'est exactement ça, ouais. En effet, j'avais tout juste 20 ans. Et donc, je ne voyais pas de femme évoluer à la tête des orchestres nationaux, je ne voyais pas de femme être directrice musicale d'un orchestre national, donc je me suis dit, Zaya, il faut se prendre en main.
Mais c'est tellement ambitieux de vouloir monter son orchestre à cet âge-là, parce qu'un orchestre, ce n'est pas que de la musique, quoi. C'est beaucoup de logistique aussi. Et c'est des finances à trouver.
C'est vrai qu'en effet, de se dire, je vais créer mon orchestre, ce n'est pas juste de réunir quelques musiciens, mais c'est aussi déjà de concevoir son projet artistique, de voir aussi comment concrètement on va le mettre en place, payer les musiciens, avoir des pupitres. Alors, j'en ai passé parfois du temps à porter des timbales, à déplier des pupitres. Ma sœur, elle m'a beaucoup aidée, mon frère aussi, parfois même quand on partait en tournée, à conduire le camion, il y avait tout le matériel d'orchestre.
Se pose aussi la question de la résidence, où installer cet orchestre.
Moi, je me suis dit, mais Zaya, ça ne sert à rien d'essayer de créer un orchestre qui va aller se battre pour être en résidence aussi à la Salle Pleyel ou la Cité de la Musique, alors qu'il y en a déjà tellement qui y sont. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais quand même trouver un sens qui soit vraiment de valeur. Du coup, ça a été vraiment d'aller installer cet orchestre en Seine-Saint-Denis.
C'est un engagement politique aussi, de rester en Seine-Saint-Denis.
Oui, ah oui, tout à fait. Un engagement politique, même militant, j'ai envie de dire. Après, j'étais convaincue qu'il fallait l'excellence sur ce territoire-là. J'ai créé parallèlement l'Académie Divertimento qui permettait de retrouver cette rencontre entre des jeunes musiciens qui avaient envie d'acquérir plus d'expérience et des musiciens professionnels. Quand j'allais dans les bureaux du ministère de la Culture et que je disais, bah, tiens, je veux avoir des financements pour aller faire de la musique à Stain, à Sevran, et offrir les mêmes possibilités aux habitants d'écouter des concerts de grande qualité que ce qu'on a à la Salle Pleyel, Et ben on me disait, mais non, mais ça marchera jamais. Et puis de toute façon, les publics, ils sont pas intéressés, ils aiment pas, ils vont pas y aller, c'est trop cher. Et puis les jeunes, ça les intéresse pas. Et puis on n'arrêtait pas de me le dire. Je leur dis, mais écoutez, je suis une preuve vivante que c'est pas vrai. Puis toutes les premières expériences qu'on avait, je voyais qu'au contraire, les publics avaient envie. On arrivait à fédérer des gens très différents autour de nos concerts.
Zaya Ziwani avec Amélie Perrier. Demain, elles creuseront ce sujet, la musique symphonique, en Seine-Saint-Denis. 13h54.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire aujourd'hui, l'émergence de la Grèce moderne, c'était il y a 200 ans, 1821 déjà, un appel de l'archevêque Germanos. Il avait donné le branle à la révolte des Grecs contre l'Empire turc. Ça, c'est le volet religieux de l'insurrection. Et puis, le 12 janvier 1822, il y a 200 ans, le volet civil, ouverture à Épidaure, dans le Péloponnèse libéré, d'une assemblée nationale.
Bon, jusqu'à l'intervention 1827 de trois puissances, la Russie, l'Angleterre, la France, la guerre d'indépendance grecque, qui tient beaucoup de la guérilla, est confuse, voire indémêlable. Alors ne donnons pas à telle et telle date plus d'importance qu'elles n'en ont. La première assemblée d'Épidaure, c'est peu de chose, hein, 70 délégués, 800 hommes en armes, et en même temps c'est l'instant où sont adoptées une ébauche de constitution et une déclaration des droits de l'homme qui vont renforcer la cause des Grecs dans les opinions publiques européennes.
À ce moment-là, les Grecs, sous la tutelle turque, avaient peu à peu oublié qu'ils étaient Grecs. Ils s'accommodaient vaille que vaille des règles plus ou moins dures qu'imposait la Sublime Porte, qui ne s'appelait pas encore Istanbul mais Constantinople. Ils n'étaient plus que l'une des minorités chrétiennes de l'Empire musulman.
« Oui, mais nous sommes tous des Grecs !» s'exclame le poète anglais Shelley. Les opinions publiques européennes vont réveiller la fierté des Grecs en leur redonnant le vieux nom d'Hellènes, enfoui dans les entrailles de l'Antiquité. Et le mouvement qui se lève pour soutenir leur combat se nomme lui-même Philhellène. Parmi ces hauts faits, le départ vers le Péloponnèse de quelques 1200 jeunes Européens, des brigadistes internationaux avant l'heure, dont un tiers va mourir sur place, à commencer par Lord Byron, leur figure de proue, qui disparaît en 1824 à Missolonghi. Alors les peintres, les sculpteurs s'emparent du sujet. Bon, je ne veux pas faire de publicité à la galerie Lebrun, je n'indique pas son adresse, hein, simplement qu'elle est située dans le sentier. Elle présente, bon c'était en 1826, hein, une grande exposition dont les tickets d'entrée, près de 30 000 visiteurs, alimentent la cause. Un tableau représente un jeune diacre orthodoxe qui chante alors qu'un musulman fourbe se lève dans la tour voisine et va l'abattre. Un autre, un navire de la Sublime Porte qui explose sous l'effet des brûlots grecs accrochés à ses flancs. Et l'exploit de la galerie Lebrun...
Comment dites-vous Lebrun, hein.
Lebrun, oui. C'est d'exposer sur 6 mètres de haut la Grèce pleurant les ruines de Missolonghi, le chef-d'œuvre de Delacroix.
Un peu d'années après, révolution de 1830, cela fera peindre à Delacroix la liberté guidant le peuple, dans le même format. Le combat Philhellène et celui des libéraux, au sens qu'a le mot au 19e, est le même.
Les libéraux qui exigent l'exercice des libertés dans le cadre des États-nations. Mais enfin, en Grèce, la lutte passe aussi par l'Église. Les députés d'Épidaure ont apporté avec eux des exemplaires des constitutions françaises et américaines, mais ils ont bien pris garde de mettre l'accent sur la préséance due à Dieu. La lutte de libération, c'est aussi une croisade. L'Athènes reconstituée, c'est à la fois la cité de la démocratie antique et une Jérusalem retrouvée dont on veut chasser les infidèles.
Bon, cette guerre d'indépendance grecque est tissée de contradictions.
Oui, mais en voici une de taille. Les Grecs, trop peu nombreux, 1 million au maximum dans les provinces révoltées, ne peuvent l'emporter seuls face aux Turcs, que viennent renforcer les troupes du Pacha d'Égypte, qui vont reprendre le Péloponnèse. Eh bien, ils parviennent à faire intervenir dans leur lutte les souverains européens qui étaient pourtant bien décidés à ne pas toucher aux équilibres mis en place peu avant au Congrès de Vienne. Et finalement, la Russie et l'Angleterre se décident à une intervention croisée, c'est le mot qui convient.
Et la France ?
Ben, la France, le roi Charles X, le dernier Bourbon, est très sensible au massacre de chrétiens que multiplient les Turcs. Ce sont plutôt les Russes et les Anglais qui imposent un souverain bavarois au nouveau pays, la tutelle allemande déjà sur Athènes avant la chancelière Merkel. La France, elle, s'enorgueillit de ses missions scientifiques plus tard, en 1846, de la création de l'école française d'Athènes. Et d'ailleurs, une grande exposition Paris-Athènes célèbre cette coopération légendaire au musée du Louvre.
Exposition Paris-Athènes, naissance de la Grèce moderne jusqu'au 7 février au Louvre donc, hein, pas la galerie Lebrun.
Non, elle est fermée, je le crains.
Merci Jean Lebrun. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré dans quelques minutes. Qui était Néandertal ?
Oui, enquête archéologique sur Néandertal.
À tout de suite.